France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, c'est de la nature des choses de Lucrèce que nous lisons avec philosophie. Long poème composé de 6 chants et de quelques 7400 vers, écrit au 1er siècle avant notre ère par un épicurien convaincu mais angoissé. Et aujourd'hui, nous allons revenir précisément là-dessus, sur cette affirmation que j'ai dite et répétée d'un Lucrèce épicurien convaincu mais angoissé. Lucrèce était-il vraiment épicurien? Était-il convaincu d'ailleurs par quoi que ce soit? Avait-il quelque chose d'indigne? Disciple, marginal, isolé, acharné à faire entendre la parole de son maître. Si son poème reste définitivement mélancolique et beau à n'en pas douter, pourquoi a-t-on eu besoin de fabriquer un tel mythe, le mythe Lucrèce ? Bonjour Pierre Vesperini.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en histoire et en philosophie au CNRS. On se parle de manière lointaine puisque vous êtes à Cambridge, je préviens les auditeurs et auditrices. Vous êtes spécialiste de l'Antiquité et sur Lucrèce, vous avez écrit « Lucrèce, archéologie d'un classique européen » réédité cette année en chant Flammarion. Alors vous l'avez entendu, Pierre Vesperini, depuis le début de la semaine, je crois que je fais une grosse erreur puisque je présente Lucrèce comme un épicurien convaincu mais angoissé. Est-ce que j'ai complètement tort ?
Alors, je ne dirais pas, je ne me permettrai pas de dire que vous faites une grosse erreur, parce que dans le domaine de l'histoire antique, on en est souvent réduit à faire des conjectures. Donc, je pense que vous avez tort, mais je n'ai pas le moyen de vous le démontrer avec des preuves absolument irréfutables. Simplement, je pense que vous avez tort pour la simple et bonne raison que je dispose, par l'étude des sources, de toute une série d'indices, je dis bien ce sont des indices, ce ne sont pas des preuves définitives, de toute une série d'indices qui me permettent de faire une conjecture qui est aux antipodes de cette image traditionnelle pour nous, de Lucrèce comme un épicurien convaincu et angoissé. Quand je dis image traditionnelle, c'est au sens non pas où ce serait une image séculaire, mais au sens où la tradition est souvent une invention récente, comme l'ont bien montré les historiens comme Rome. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment naît cette tradition, ce mythe de Lucrèce, et de voir comment l'Antiquité nous dit, nous présente une image tout à fait différente.
Quelle image alors nous présente l'Antiquité, Pierre Vesperini ?
Ben écoutez, pour essayer de comprendre ce qu'était Lucrèce, on dispose d'abord du poème lui-même et ensuite de sources extérieures au poème. Le poème lui-même nous donne des informations relativement précises sur le dispositif social qui a présidé à la production du poème. Ce poème est adressé à un sénateur romain qui s'appelle Memmius. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, là, il faut forcément contextualiser ce geste d'une dédicace à un sénateur romain dans la société romaine en général. Et donc, si on fait ce travail-là, on se rend compte immédiatement que nous avons affaire à un poète qui est le client, société clientélaire, société aristocratique, où les citoyens sont pris dans des réseaux donc clientélaires, donc protégés par tel ou tel aristocrate. Donc ce que nous montre le début du poème de Lucrèce, c'est un poète qui offre à un sénateur un cadeau, et ce cadeau, c'est le poème. Or, si on compare avec d'autres exemples, on sait qu'on ne peut pas offrir comme ça spontanément un poème, une épopée en 6 livres. Ce genre de poème répond en général à une commande. C'est-à-dire que c'est le sénateur Memmius qui a commandé à un poète professionnel la composition de ce poème. Et ce qui prouve cela, c'est que on a des sources extérieures au poème cette fois, qui montrent que Memmius attachait son prestige, son image de sénateur romain, à l'épicurisme. Nous savons par exemple qu'il protégeait le scolarque du jardin, qui s'appelait Patron, et nous savons également qu'il avait été propriétaire de la maison d'Épicure à Athènes. Et cela, nous le savons parce que, au moment de son exil, puisqu'il a une carrière politique qui s'est achevée par un désastre, il avait décidé de détruire cette maison pour construire à la place un immeuble de rapport, si vous voulez.
C'est une sorte de promotion immobilière, en fait. Une promotion immobilière sur le nom d'Épicure, on peut le dire.
Exactement. Alors, ça, évidemment, ça pose un énorme problème pour le mythe de Lucrèce. Mmh. Parce qu'on s'est dit, alors, d'abord, ce personnage est absolument sans scrupules, ce qui est tout à fait normal pour un aristocrate de la fin de la République romaine. Et évidemment, ça pose un problème. Pourquoi est-ce que Lucrèce, épicurien convaincu, va-t-il dédier son poème à un personnage absolument sans aucun intérêt moral, et qui en plus, non seulement devait se désintéresser totalement de la philosophie, mais en plus de ça, va vouloir détruire la maison d'Épicure. On a une lettre circonstanciée de Cicéron à Memmius où il essaye d'en dissuader.
Pierre Vesperini, je vous interromps. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait de La nature des choses de Lucrèce, de manière à pouvoir stabiliser aussi votre voix d'un point de vue technique. On écoute tout de suite cet extrait où on entend très bien, effectivement, l'adresse de Lucrèce à l'aristocrate qui lui a fait cette commande de ce poème.
Toi-même, un jour ou l'autre, tu voudras nous quitter, vaincu par les paroles terribles des devins. Car ils peuvent forger pour toi de nombreux rêves, capables de bouleverser les normes de ta vie et de troubler toujours ton bonheur par la crainte. Et c'est justice. S'ils voyaient un terme à leurs maux, les hommes parviendraient, d'une manière ou d'une autre, à braver les croyances et les menaces des devins. Mais quand la mort fait craindre des peines éternelles, il n'est aucun moyen, aucun pouvoir de résistance. On ignore en effet la nature de l'âme. Naît-elle avec le corps ou s'y glisse-t-elle à la naissance? Périt-elle en même temps que nous, dissoute par la mort? Hante-t-elle les ténèbres d'Orcus et ses marais désolés? Ou s'insinue-t-elle en d'autres espèces animales, par miracle divin, comme l'a chanté l'un des nôtres, Énus, qui rapporta de l'aimable pays des Muses la première couronne de feuillage immortel, célébrant sa gloire chez tous les peuples d'Italie. Et pourtant, oui, pourtant, en ces vers immortels, Énius proclame l'existence de l'Achéron, où s'immergeraient non pas nos âmes ni nos corps, mais des simulacres étrangement livides. De ces régions, Homère juvénile à jamais lui serait apparu, comme il le raconte, et le spectre, s'étant mis à verser des larmes salées, lui aurait révélé la nature des choses. Il faut donc bien saisir les phénomènes célestes, expliquer les courses du soleil et de la lune, la force par laquelle tout s'accomplit sur Terre, mais surtout découvrir par un raisonnement subtil la nature de l'âme et celle de l'esprit, ce qui se présente à lui et nous frappe de terreur, éveillé et malade ou enseveli dans le sommeil, nous donnant la vive impression de voir et d'entendre après leur mort les êtres dont la terre étreint les eaux. Non, je n'ignore pas qu'en vers latin, il est difficile d'éclairer les obscures découvertes des Grecs, d'autant plus qu'elles requièrent bien des néologismes, car notre langue est pauvre et le sujet nouveau. Mais ta valeur, ton amitié, doux espoir de plaisir, m'incite aux plus grands efforts. Dans le calme des nuits, je cherche les mots, le poème, qui répandront dans ton esprit une vive lumière pour te révéler enfin le profond secret des choses.
Extrait du premier chant de La nature des choses de Lucrèce, lu par Anaïs Isbert. Nous sommes ici vraiment dans les premiers vers, au vers 102 jusqu'à 144. Et on entend bien cette adresse à Memmius, donc cet aristocrate qui a commandé ce poème à Lucrèce, puisqu'il y a tout le temps ce tu, ce toi-même et cette mention de ton amitié. Pierre Vesperini, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Ce texte n'est pas l'œuvre spontanée de Lucrèce qui voulait prêcher la parole de son maître. C'est vraiment une commande tout à fait intéressée.
Oui, et là, j'aimerais citer à ce propos un poème dont on ne connaît pas l'auteur, mais qui est à peu près contemporain, qui s'appelle la Syris, C-I-R-I-S. C'est un petit oiseau qu'on traduit en français par l'aigrette. C'est un petit poème mythologique qui est offert à un aristocrate romain qui s'appelait Messala par un poète. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début du poème, donc il s'adresse à son destinataire aristocrate, dont il recherche la protection, et lui dit « Voilà, je t'offre ce court poème mythologique, mais ce que j'aimerais, en fait, c'est de composer pour toi un immense poème consacré à la nature des choses. Et là, je lirai ton nom à la Sophia, c'est-à-dire à la sagesse, au savoir universel. Mais pour cela, j'ai besoin que tu en aies le désir, la libido, c'est le terme qui est employé. Donc c'est une source absolument extraordinaire et qui n'est jamais citée en général dans les études sur Lucrèce, qui nous montre parfaitement le mécanisme à l'œuvre. C'est-à-dire que on a besoin d'une commande, d'un désir de l'aristocrate, parce qu'on peut pas comme ça tout seul se lancer dans une entreprise aussi vaste et aussi coûteuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien cette idée de conjonction, de conjunctio du renom et du nom de l'aristocrate, du nomen, avec la Sophia. Parce qu'il faut que vous compreniez que si le poème réussit, si jamais le poème De Natura Rerum a du succès, il va rentrer dans la formation des élites romaines, il va être commenté à l'école, et on sait que le poème de Lucrèce a fait l'objet de commentaires dans les écoles antiques, et à ce moment-là, forcément, votre nom va passer à la postérité. Et c'est ça qui s'est passé avec Lucrèce.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le nom de Memmius qui est passé à la postérité, alors que ce poème est censé, comment dire, le flatter lui-même, c'est-à-dire lier son nom à l'éternité, lier le nom de Memmius à l'éternité à travers le savoir. C'est le nom de Lucrèce que l'on garde aujourd'hui.
Oui, bien sûr, parce que pour nous, le nom de Memmius n'a absolument aucun intérêt.
Oui, d'ailleurs, il est très vite écarté quand on lit des traductions de la nature des choses. On voit Memmius, ça renvoie à une note de bas de page, et on écarte vite cette figure-là.
Oui, aussi parce qu'elle est assez embarrassante et on ne sait pas quoi en faire si Lucrèce est censé être un militant de l'épicurisme. Mmh. Mais évidemment, ce qui était important pour Memmius et pour tout aristocrate romain, c'était que son nom soit préservé de l'oubli Et de ce point de vue-là, il a réussi. C'est-à-dire que dans toute l'Antiquité, son nom est à préserver de l'oubli. Et la composition d'un poème est à mettre en parallèle avec la production de monuments architecturaux. Souvent, d'ailleurs, les poèmes et les monuments étaient liés. Je disais tout à l'heure que Memmius était propriétaire de la maison d'Épicure à Athènes, c'était très certainement parce qu'il avait l'intention d'y effectuer des travaux comme Cicéron l'envisageait pour l'Académie de Platon à Athènes, comme Appius Claudius Pulcher l'envisageait pour Éleusis, c'est-à-dire que les aristocrates romains aimaient beaucoup donc associer leur nom à des vestiges prestigieux du passé grec.
Alors de là, deux questions quand même, Pierre Vesperini, parce que c'est vraiment passionnant, c'est-à-dire de se pencher sur la manière dont a été produit ce texte et dont il a été reçu au départ. Une question assez bête pour nous en 2025, qu'est-ce que ça change à la nature du texte, à l'idée qu'est-ce que ça change l'idée qu'on a de Lucrèce à notre lecture de ce poème? Est-ce que ça le corrompt d'une certaine manière? Est-ce que ça entrave en fait une juste réception?
Je pense qu'il n'y a pas de juste réception. Je pense que la vitalité des textes classiques, c'est justement qu'ils suscitent des réceptions de tous ordres. Je crois simplement qu'il faut distinguer la réception scientifique, qui vise à restituer la réalité historique de l'œuvre, et la réception plus subjective, qui fait que tel ou tel, par exemple, pensez à Francis Ponge, ce que Francis Ponge a fait avec Lucrèce, c'est aussi une réception de Lucrèce. Il serait totalement absurde de ma part de dire que cette réception n'est pas légitime.
Qu'est-ce qu'il a fait Francis Ponge avec Lucrèce?
Je pense que l'influence de Lucrèce dans le parti pris des choses est absolument évidente.
Alors la deuxième question que je voulais vous poser, Pierre Vesperini, c'est aussi sur la nature de l'auteur, parce qu'on entend dans l'extrait qu'on vient de diffuser le terme « mais ta valeur, ton amitié ». Alors on a l'impression là qu'il y a un rapport sentimental, affectif, qui lie Lucrèce à Memmius, mais en fait il faut comprendre autrement ce terme. Est-ce que vous pouvez nous préciser cette relation, ce qui va nous permettre aussi d'aborder en fait le statut du poète à l'époque à laquelle écrit Lucrèce?
Oui, alors d'abord le statut du poète. En fait, vous savez, c'est un monde qui me fascine vraiment, et donc mon dernier livre, c'est justement essaye de retracer ces figures de poètes oubliées, parce que donc on a retenu Lucrèce et quelques autres, mais en fait, il faut imaginer qu'il y a une foule de jeunes lettrés, on disait à l'époque des scolastiki, qui ont ce rêve justement de laisser un nom à la postérité. Mais comment? Eh bien, en imitant et en recréant en latin un chef-d'œuvre de la littérature grecque. Donc, parmi eux, il y a des gens de basse naissance, de naissance obscure, qui se cherchent une voie dans la société romaine. Et il y a aussi par ailleurs des poètes amateurs, des gens qui sont suffisamment riches pour pouvoir des gens comme Catulle par exemple. Donc dans le cas de Lucrèce, il y a un rapport d'inégalité qui est établi dès le départ dans son rapport avec Memmius, qui nous montre bien que c'est pas du tout un égal, il appartient pas à l'aristocratie. Et vous me parliez du mot amicitia, donc l'amitié, c'est pas du tout quelque chose de sentimental ici. L'amicitia, c'est un terme technique du rapport clientélaire. Ça désigne un rapport un peu plus privilégié, de plus grande proximité, qui va s'établir entre le protecteur et son client. Et ce qui est intéressant, c'est que Lucrèce dit qu'il espère atteindre à ce rang. Il n'y est pas encore, mais il espère y parvenir.
Donc le statut de Lucrèce était complètement dépendant de celui de Memmius, c'est-à-dire que en fait c'était un poète qui aspirer à être reconnu, non pas seulement en tant qu'un exécutant d'œuvres. On pourrait parler aujourd'hui, par exemple, de gens qui écrivent dans l'ombre de plumes, mais qui voulaient être reconnus en tant que tels.
Oui, tout à fait. Il y a le poète est très souvent indépendant. Pas toujours, je l'ai dit à propos de Catulle, mais très souvent, pensez à Horace, pensez à Virgile, ce sont des gens qui dépendent de protecteurs. Et c'est le cas ici.
Donc, Lucrèce était complètement dépendant de Memnus. On voit aussi dans l'extrait qu'on a entendu la mention de Ennius. Alors, attention, parce que c'est vrai que parfois, quand on entend de loin ce texte, il y a Memnus qui a commandé ce texte et il y a Ennius qui est cité et il y a aussi Homère. Nous, on a quand même l'idée aujourd'hui de poètes qui, en fait, ont traversé les siècles, leur nom est resté connu et on s'imagine qu'ils étaient des créateurs comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment qui d'eux-mêmes avaient une œuvre. Pourquoi c'est important, en fait, de rappeler que s'ils ont traversé les siècles, au départ, leur statut était celui qui avait un statut beaucoup plus commerçant, en fait, beaucoup plus clientélaire.
Oui, alors en fait, Lucrèce, en fait, Ennius, il faut peut-être dire aux auditeurs, parce qu'aujourd'hui on n'a plus que des fragments d'Ennius et il est plus du tout aussi connu qu'il l'était à l'époque, mais si vous voulez, Ennius à l'époque de Lucrèce, c'est le Homère de la poésie latine. On apprend à l'école à lire dans Ennius. Il est vraiment l'encyclopédie poétique latine. Et donc, si vous voulez, et d'ailleurs lui-même, Ennius se présentait comme le nouveau Homère. Hein. C'est pas moi qui invente ce rapprochement. Donc, c'est un exemple de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire du fait que les poètes latins se présentent toujours comme des figures nouvelles d'un poète grec précédent. Et donc, si vous voulez, pour Lucrèce, Ennius, c'est un peu l'homme à abattre. Il veut remplacer Ennius dans la formation des élites. Et en fait, il y a quasiment réussi, simplement la place sera prise à partir de la révolution augustéenne par Virgile. C'est Virgile, en fait, qui va remplacer Ennius. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre que le rapport à Ennius s'inscrit dans cette dynamique-là. Vous savez, il y a une phrase de Paul Valéry que j'aime beaucoup dans son essai sur Baudelaire, où il dit à peu près que dépasser Hugo, c'était la raison d'État de Baudelaire. Vous voyez ? Eh bien, c'est un peu pareil.
En fait, ce qui est assez fascinant, Pierre Vesperini, c'est quand même qu'on se rend compte qu'il y a une permanence de ce qu'on appelle aujourd'hui le monde de l'art, c'est-à-dire un monde quand même qui est réglé par des enjeux financiers, par des intérêts de réputation. C'est-à-dire que l'image quand même de l'auteur ex nihilo qui crée comme ça, en fait, c'est plutôt ça, en fait, le mythe. Il y a le mythe Lucrèce, mais en fait, le mythe sur lequel repose ce mythe de Lucrèce, c'est celui-ci, c'est-à-dire d'un auteur génial, isolé, non reconnu, c'est le poète maudit aussi d'une certaine manière.
Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire, mais ça, c'est un mythe qui naît vraiment au 19e siècle. Hein. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qu'on a entendu cette semaine sur Lucrèce comme poète angoissé, etc., c'est vraiment des choses qui commencent au 19e siècle. Jusqu'au 19e siècle, personne ne raconte ça. C'est vraiment lié à la mentalité romantique du poète sombre. Mais en fait, Lucrèce, il n'y a aucune raison de penser que Lucrèce était angoissé. D'ailleurs, ça n'aurait intéressé absolument personne à Rome. C'est ça qu'il faut dire, c'est que la psychologie de M. Lucrèce n'intéressait absolument personne. Ce qui, pour nous, est tout à fait différent. Pour nous, la psychologie de l'auteur est absolument fondamentale. C'est toujours très curieux de comparer les quelques vies de poètes qu'on a conservées de l'Antiquité. parce que c'est toujours extrêmement bref. Ça ne nous parle pas du tout de la psyché du poète, alors que nous, évidemment, on a l'habitude de livres, de pavés sur l'âme de Proust, vous voyez. Mmh. Donc, ce n'était pas du tout ça. Ce qui est, en revanche, très important, c'est de comprendre que le poète, en tant que producteur de l'œuvre, devait faire parler dans son poème ce que les anciens appelaient une persona, c'est-à-dire qu'il devait assumer une certaine figure. Si vous me commandez un poème épicurien, il est évident que je vais me faire parler dans le poème comme un philosophe épicurien. Mm-hmm. C'est ce que les anciens appellent la persona poetae. Et ce que les modernes ont fait, c'est de confondre la persona poetae, donc le masque du poète, avec la personne humaine qui est à l'origine du poème, selon un mode de lecture typiquement romantique.
Donc peu importe la persona de Lucrèce lui-même, c'est-à-dire sa psychologie, ce qui importe, c'est la persona poetae qu'il emprunte. Et là, c'est bien celle de l'épicurisme, parce que c'est vrai qu'on peut, après tout, on s'en fiche un peu de savoir s'il était anxieux, angoissé, bipolaire, mais néanmoins, le poème a cette dimension-là, plus désespérée, plus colérique, moins lumineuse quand même que la lettre à Ménécée d'Épicure. Et puis, il y a des thèses épicurienne qu'on trouve quand même, la crainte des dieux qu'il faut éviter, la peur de la mort aussi qu'il faut éviter, d'autres thèses aussi, que ce soit de l'ordre de l'atomisme ou de la théorie des plaisirs, même si elle est moins présente que chez un épicure. Est-ce que ça aussi c'était juste un emprunt de la part de Lucrèce, ou est-ce que quand même, ben voilà, de la nature des choses, c'est quand même un vrai poème didactique, pédagogique de l'épicurisme?
Alors, des tas de choses à vous dire là-dessus. D'abord, premièrement, donc si on part donc de mon idée, c'est-à-dire que nous avons affaire à un poète, c'est-à-dire à un artiste, donc il faut se demander la chose suivante. Effectivement, il y a des passages dans Lucrèce où la figure du philosophe qui parle nous apparaît comme particulièrement sombre, particulièrement violente. Mais la réponse que j'aurais à ça, c'est que je me suis dit que bon, vous êtes poète, on vous commande un poème épicurien. Vous devez apparaître comme un philosophe épicurien dans le poème. Le philosophe épicurien n'était pas une figure particulièrement frappante, particulièrement pittoresque, particulièrement intéressante. En revanche, il y avait un type de philosophe qui était particulièrement saillante, particulièrement impressionnante et dont on pouvait tirer un parti pris esthétique très intéressant. C'était le philosophe plus ou moins assimilé à la tradition cynique. C'était ces prédicateurs de rue dont parle Horace et qui passaient leur temps à tonner contre la religion, contre la politique, contre les dieux, etc. Et qui étaient tout à fait, qui étaient reçus avec beaucoup d'intérêt, voyez. Donc, je pense que, mais ça, c'est lié à ma conception de la poétique de Lucrèce en général, qui est, à mon avis, une poétique qui, vous avez cité cette semaine le fameux passage sur le miel et l'absinthe. Mmh. Eh bien, je pense que toute la poétique de Lucrèce repose autour de cette alternance de suavitas, de douceur, de charme, et de quelque chose de sombre, de grinçant. Donc c'est pour ça que je ne dirais pas que d'une façon générale le poème est sombre. Vous avez cité des passages sombres, mais il y a des passages absolument lumineux. Et Lucrèce passe son temps à jouer sur les deux, sur les deux tableaux. Je pense par exemple, pardon.
Oui, allez-y.
Non, je pense par exemple au fameux passage au début du chant 2 que vous avez lu. Vous savez, il est doux quand on est au bord, oui, de la mer, de voir des gens faire naufrage.
Suave Mari Magno, c'est ça le début,
voilà,
du vers.
Qui était destiné, à mon sens, à choquer. C'est-à-dire que quand on dit, parce qu'évidemment là aussi c'est embarrassant pour le mythe de Lucrèce quand même, c'est un philosophe épicurien, c'est pas très aimable de dire qu'il est, parce que suave, c'est un mot très fort. c'est pas simplement qu'on est soulagé, ça nous fait du bien. C'est vraiment que ça nous procure une jouissance.
Oui, c'est soivé, c'est pas ce qui a donné suave aujourd'hui, avec une forme de petite douceur quand on... Enfin, suave aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une petite douceur comme si on mangeait un bonbon.
Si, c'est très fort. Oui, c'est tout à fait. C'est vraiment sucré, c'est le miel, c'est vraiment... C'est comme le miel dans la gorge, vous voyez.
Enfin, là, vous dites carrément jouissance, hein.
Ah, tout à fait. Mais c'est le but. Mais encore une fois, et c'est pour ça que le passage a été célèbre. C'est parce que artistiquement, il y a quelque chose là de frappant, de vraiment réussi. Donc ça, c'était pour rendre compte, si vous voulez, de ces passages sombres. Ils sont faits pour choquer. Ensuite, pour revenir à un autre aspect de votre question, c'est-à-dire finalement, quid de l'épicurisme dans ce poème épicurien? Bon, oui, évidemment, pour l'essentiel, il s'agit bien de doctrine épicurienne. Mais néanmoins, il y a dans le poème des moments un peu contradictoires. Et ça a été relevé par certains savants qui parlent parfois de l'anti-Lucrèce dans Lucrèce. Bon, il y a par exemple un moment absolument étonnant où il a l'air de sous-entendre qu'il existe dans le monde une providence qui punit les méchants. Donc c'est un moment où il parle d'une force cachée, hein, d'une vis abdita. Bon, et là on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ça pose toujours un problème. Pourquoi est-ce qu'il parle à un moment donné de la nature gouvernant? Pourquoi est-ce qu'il parle, bon, évidemment, pourquoi est-ce qu'il commence son poème par un hymne à Vénus? Il commence le poème par une immense invocation à une déesse pour lui demander de l'aider à écrire son poème, alors qu'il est censé écrire un poème expliquant que les dieux n'existent pas. Donc ça fait partie tout à fait de, et ça, le Servius, un commentateur antique, en parle très précisément. Ça fait partie de la licence qui était permise aux poètes d'introduire dans leurs poèmes des notions appartenant à différentes écoles philosophiques. Et Servius dit seulement ceci, il dit attention, ça c'est pas permis à un poète qui est censé faire un poème philosophique, par exemple comme Lucrèce. Vous voyez, Lucrèce ne peut pas vous faire un poème épicurien en mélangeant tout. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a quand même des traces de cette licence poétique. Et pour terminer, juste une chose. Ce qui est tout à fait curieux, c'est que l'essentiel du poème est consacré à la physique épicurienne, alors que ce qui vraiment était... Enfin, je veux dire, aucune de ces vérités physiques n'était faite pour changer la vie de qui que ce soit à Rome. La plupart des gens à Rome estimaient que l'âme ne survivait pas à la mort. Nous avons un témoignage de Cicéron qui nous dit que quand au théâtre le public entendait un personnage nier la providence divine, eh bien tout le monde applaudissait. Donc tout ça ne choquait absolument personne.
Oui, il n'était pas transgressif ou subversif en fait.
Non, alors qu'il y avait trois principes dans l'épicurisme qui étaient vraiment choquants pour un Romain. Nous avons une anecdote à ce propos de Plutarque sur laquelle je pouvais revenir, mais il y a trois principes vraiment qui vont contre Rome. C'est premièrement le plaisir comme souverain bien. Ensuite, c'est l'idée qu'il ne faut pas faire de politique. Et enfin, c'est l'idée qu'il n'y a pas de providence des dieux. Or, ces principes-là, vous les voyez à peine développés. C'était pourtant les principes qui avaient le plus de pertinence dans la vie pratique. C'est-à-dire que si vous vivez en épicurien, ça veut dire que vous vivez selon ces trois principes. Et la physique en elle-même ne pose pas de problème.
Pierre Vesperini, on va poursuivre cette fabrication du mythe de Lucrèce. On va tout de suite entendre la voix d'un professeur à Harvard qui s'appelle Stephen Greenblatt et qui a justement entretenu, contribué à la fabrication de ce mythe.
Est-ce qu'un livre vieux de plusieurs centaines d'années peut changer le monde? Le spécialiste de la Renaissance et professeur à Harvard, Stephen Greenblatt, a écrit ce qu'il appelle une histoire déceptivement simple.
Un homme qui n'avait rien de remarquable se rend dans une bibliothèque, prend un livre sur une étagère et, pas instantanément, mais de manière décisive, le monde change.
Lucretius's On the Nature of Things is one of the great instances of cultural mobility.
La nature des choses de Lucrèce est un des grands cas de mobilité culturelle. Il a circulé du temps de Cicéron, César et de Virgile. Puis après quelques centaines d'années, il a disparu. Il est à peine mentionné pendant 1000 ans. Et puis, un jour, en janvier 1417, un chasseur de livres, obscur bureaucrate, Poggio Bracciolini, l'a sorti d'une étagère de la bibliothèque d'un monastère. Et ce livre portait en lui quelque chose qui a tout changé.
En 2011 est sorti le livre The Swerve, donc Le Tournant, écrit par Stephen Greenblatt, qu'on vient d'entendre. Et c'est contre cette thèse-là, Pierre Vesperini, que vous avez écrit votre livre, c'est-à-dire contre l'idée d'un Lucrèce qui aurait eu du succès, puis aurait été tout à coup été oublié, enfin même plus qu'oublié, banni, censuré durant tout le Moyen-Âge, notamment par les pères de l'Église, par le christianisme, et qui aurait tout à coup été retrouvé. Il y a quand même deux idées, à la fois la censure, mais aussi le livre qu'on retrouve comme ça et qui change toute une époque historique.
Oui, alors commençons par la censure, si vous voulez bien. Lucrèce n'a jamais été censuré, et certainement pas par les pères de l'Église qui le citent copieusement. Saint Jérôme mentionne notamment les commentaires de Lucrèce dans lesquels il a étudié enfant. Et je voudrais ici parler justement de la brève notice que Saint Jérôme consacre à Lucrèce et dont vous avez parlé cette semaine. La fameuse histoire de Lucrèce qui, après avoir bu un philtre d'amour, serait devenu fou et qui aurait composé son poème dans les intervalles de sa folie. Et alors, cette notice de Saint Jérôme n'a jamais posé problème à personne jusqu'à la modernité la plus récente, encore au XIXe siècle. Karl Lachmann, le grand et génial éditeur et philologue, éditeur de Lucrèce, disait qu'il n'y avait absolument rien qu'on ne puisse croire dans cette notice de Saint Jérôme. Les philtres d'amour existaient dans l'Antiquité et pouvaient provoquer effectivement des cas de folie. On en a deux exemples connus, c'est Caligula et puis Lucullus. Et alors, ce qui m'a intéressé dans cette notice de Saint Jérôme, c'est que Saint Jérôme, qui est un grand lettré, comme vous le savez, passionné, tourmenté d'ailleurs par sa passion des lettres. Saint Jérôme prend soin de nous dire que Lucrèce a composé son poème dans les intervalles de sa folie. Et donc, en fait, contrairement à ce qu'on lit aujourd'hui, il n'est pas du tout en train de dire que Lucrèce était fou, donc son poème est invalidé par sa folie. Au contraire, et ça, j'ai pu le montrer à partir du droit romain, en réalité, la notion d'intervalle de la folie, c'est une notion très importante en droit romain. Si vous rédigez votre testament, par exemple, dans les intervalles de votre folie, ou si vous répudiez votre femme dans les intervalles de votre folie, à ce moment-là, votre acte est considéré comme valide. Donc, au contraire, ce que dit Saint Jérôme, c'est pas du tout pour disqualifier Lucrèce, mais au contraire pour dire que son poème est parfaitement valable. Et j'ajoute que Saint Jérôme nous dit également que le poème a été édité par Cicéron, ce qui est là aussi parfaitement vraisemblable, puisqu'on a une lettre de Cicéron à son frère où il mentionne les poèmes de Lucrèce avec beaucoup de avec beaucoup d'admiration. Bon, ça, c'est pour la censure, si vous voulez. Et je veux dire, le Moyen-Âge n'a pas censuré Lucrèce. Au contraire, il l'a recopié. Nous en avons aujourd'hui deux manuscrits carolingiens complets. Il y en avait d'autres qui ont disparu, mais pour d'autres raisons. Et l'un d'entre eux a été d'ailleurs égaré par Poggio, cet humaniste dont parle Greenblatt.
Poggio donc ça, Bracciolini.
Écorné. Poggio Bracciolini, donc c'est pour, un peu pour... parce qu'on a un peu ce mythe des humanistes qui redécouvrent des manuscrits, qui sauvent les manuscrits, qui en partie n'est pas faux, comme souvent les clichés. Mais en fait, malheureusement, les humanistes ont également perdu beaucoup de manuscrits. Et ensuite, on arrive à l'époque de... Même Lucrèce n'a jamais été mis à l'index. L'index est donc cette liste des livres interdits par l'Église qui a été mise en place à la fin surtout à la fin du XVIe siècle, à partir de la contre-réforme. Et à un moment donné, donc, des esprits zélés on se sont demandé s'il ne fallait pas mettre Lucrèce à l'index. Et on a le témoignage, on a une lettre d'un inquisiteur, plus tard devenu pape, qui était donc chargé de la confection de cet index, qui a dit « Mais non, on ne va pas mettre Lucrèce à l'index, parce que ce serait comme si on devait mettre à l'index l'Arioste, c'est-à-dire des choses qui sont en fait des fables auxquelles on n'a pas à croire. » Donc, vous voyez, Lucrèce était considéré comme un poète, donc n'était pas objet de censure. Là où ça a commencé à poser
problème... Il n'était pas considéré
problème,
comme penseur, en fait. Il n'était pas traité comme un philosophe, mais comme un poète qui écrivait des histoires, tout simplement.
Il était considéré comme un poète qui transmettait des enseignements philosophiques. Quand on était formé... Au Moyen-Âge, quand on était formé à l'université, ces arguments philosophiques ne posaient absolument aucun problème. C'est parce qu'on savait parfaitement les réfuter. C'est la raison pour laquelle, là où ça a posé problème, c'est quand on a commencé à imprimer des traductions en vernaculaire de Lucrèce, parce qu'à ce moment-là, ça tombait entre les mains de personnes non éduqués. Et là, c'est là que, ici et là, mais surtout en Italie d'ailleurs, ça a commencé à poser problème. Ce qui m'amène à la deuxième partie de votre question, c'est qu'en fait, l'idée de Stephen Greenblatt que tout d'un coup, parce qu'on découvre Lucrèce, eh bien, c'est ce qu'il appelle aussi le kit de la modernité qui nous arrive tout d'un coup. Il emploie la métaphore de l'injection. Tout d'un coup, on injecte une espèce de sang nouveau dans l'organisme de la culture européenne. Cette idée est absolument, mais totalement fausse. Le Moyen-Âge connaissait parfaitement les théories atomistes. Elles étaient enseignées à l'université. À travers Cicéron, à travers Sénèque. Donc c'est absolument faux. C'est ce qu'on appelle un mythe.
Alors on va, le temps presse, Pierre Vesperini. Donc je vous propose qu'on continue à explorer cette fabrication du mythe de Lucrèce, puisque il y a donc cette diabolisation du Moyen-Âge, hein, comme une période sombre où on censurait, où on ne lisait pas Lucrèce, ou alors on le rejetait, on le faisait passer pour fou. Et puis il y a eu ce mythe aussi donc de la Renaissance qu'il aurait redécouvert, et ce livre, la nature des choses, aurait changé, vraiment aurait même signé un passage du Moyen-Âge à la modernité. Et puis, il y a le 19e siècle avec Victor Hugo.
Ô éternité de l'art ! Un homme, un mort, une ombre, du fond du passé à travers les siècles vous saisit. Je me souviens qu'étant adolescent, un jour, à Romorantin, dans une masure que nous avions, sous une treille verte pénétrée d'air et de lumière, j'avisais sur une planche un livre. Le seul livre qu'il y eut dans la maison, Lucrèce, de Rerum Natura. Mes professeurs de rhétorique m'en avaient dit beaucoup de mal, ce qui me le recommandait. J'ouvris le livre. Il pouvait être environ midi dans ce moment-là. Je tombais sur ces vers puissants et sereins.
La religion n'est pas de se tourner sans cesse vers la pierre voilée, ni de s'approcher de tous les autels, ni de se jeter à terre prosterné, ni de lever les mains devant les demeures des dieux, ni d'arroser les temples de beaucoup de sang des bêtes, ni d'accumuler les vœux sur les vœux, mais de tout regarder avec une âme tranquille. »
Je m'arrêtais, pensif, puis je me remis à lire. Quelques instants après, je ne voyais plus rien, je n'entendais plus rien, j'étais submergé dans le poète. À l'heure du dîner, je fis signe de la tête que je n'avais pas faim. Et le soir, quand le soleil se coucha et quand les troupeaux rentrèrent à l'étable, j'étais encore à la même place, lisant le livre immense. Et à côté de moi, mon père, en cheveux blancs, assis sur le seuil de la salle basse où son épée pendait à un clou, indulgent pour ma lecture prolongée, appelait doucement les moutons qui venaient l'un après l'autre manger une poignée de sel dans le creux de sa main.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait du texte William Shakespeare de Victor Hugo, qui date de 1864, lu par Nicolas Berger et Anaïs Sisbert. Alors voici peut-être l'achèvement du mythe Lucrèce-Pierre Vesperini, puisque on y entend évidemment la lecture d'un romantique qui aurait été lui aussi bouleversé tout à coup par Lucrèce. Mais on n'a pas tout à fait quand même l'idée là d'un génie sombre complètement. Comment les romantiques ont achevé ce mythe ?
Alors, en fait, les romantiques ne sont pas les seuls à avoir construit le mythe de Lucrèce. Je pense que, bon, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que Hugo, par exemple, il écrit ça dans son exil, mais il n'a pas pris Lucrèce avec lui en exil. Ça ne fait pas partie des poètes latins qu'il a emporté avec lui. Ici, surtout, je pense que ce qui est important, c'est le souvenir de cette découverte dans la maison de son père, en fait. La maison, là, qui est décrite, c'est celle de son père, un général d'Empire, donc un homme des Lumières, dont sa mère, très, très bigote, l'avait écarté. Donc c'est un Lucrèce très personnel en fait là que nous décrit Hugo, et la suite du texte aussi est assez extraordinaire d'ailleurs, mais très très personnel. Donc je pense que le mythe moderne de Lucrèce a effectivement cette composante romantique, également avec cette idée de l'écrivain prophète. Vous savez, Paul Benichou parlait du sacre de l'écrivain. C'est aussi cette période-là où le poète devient un législateur, un philosophe. Donc ça, c'est une des composantes du mythe. Mais l'autre composante, encore plus importante et vraiment décisive, c'était vraiment l'apogée du scientisme et du positivisme à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. C'est là, par exemple, que Victor Duruy, ministre de Napoléon III, va mettre Lucrèce au programme obligatoire de tous les lycées. C'est là qu'on se met à multiplier les traductions, les morceaux choisis, les extraits commentés, notamment les fameux extraits choisis de Lucrèce par Bergson, jeune professeur. Donc c'est vraiment dans ce combat contre la religion que le positivisme, le scientisme, le matérialisme va trouver chez Lucrèce une espèce d'ancêtre et va inventer donc cette figure de précurseur inconnu.
Donc ça veut dire aussi que non seulement on fait passer Lucrèce non plus d'un poète, mais vraiment et son texte non plus d'un poème à lire pour la beauté, pour la dimension esthétique, mais aussi comme ce qu'on appelle un poème didactique. C'est-à-dire que là on n'est plus que dans l'épopée antique, mais on est vraiment dans un poème didactique, et en plus on se sert de lui pour construire une sorte de récit, on va dire linéaire, en tout cas d'un bloc, qui ferait que la modernité a forcément en fait des fondations qui seraient solides, strictes et univoques.
Alors, plus précisément, la notion même de poésie didactique est une notion moderne, qui en fait, telle que nous la connaissons, remonte au XVIIIe siècle. En fait, pour les anciens, toute épopée et didactique, si vous voulez. Homère, c'est le maître de tous les savoirs. Donc, en fait, il n'y a pas d'opposition entre esthétique et science, si vous voulez. De toute façon, le poème l'épopée, une épopée sur la nature des choses, mais comme une épopée sur Homère, contient tout le savoir en soi. Donc ça, c'est la grande différence, le grand décalage entre les anciens et nous.
Et sur cette dimension de la construction d'un récit linéaire,
c'est-à-dire
qu'on ait fait, que justement on se soit servi à un moment donné de Lucrèce, en fait qu'on ait eu un usage de Lucrèce, non pas tant pour sa dimension, on va dire, de savoir, de la connaissance, mais aussi pour se dire, voilà, il y a en fait une connaissance qui est fondée, qui part de l'Antiquité jusqu'à nous et qui aurait eu un chemin tout tracé.
Alors ça c'est peut-être une troisième composante de cette construction du mythe de Lucrèce, c'est tout d'un coup l'importance de l'Antiquité pour l'histoire de la philosophie. Mmh, mmh. C'est qu'au fond, jusqu'au XIXe siècle, l'histoire de la philosophie n'occupait pas un rôle très important. D'ailleurs, vous savez que quelqu'un comme Voltaire disait « presque tout est absurde dans Lucrèce ». Bon, on l'admirait, mais enfin, je veux dire, là où vraiment ça change, c'est au XIXe siècle. On a montré les universités allemandes, qui sont le modèle des universités modernes, entre 1825 et 1950, la proportion d'histoire de la philosophie est passée de 19% à 80% dans les cours. Donc vous mesurez la place immense que se mettent à occuper les philosophes du passé dans la formation des philosophes.
Donc, sauf si on pense par exemple à Montaigne, juste en un mot, mais par exemple Montaigne, là-dedans, lui, est un lecteur de Lucrèce.
Alors oui, c'est un lecteur de Lucrèce, mais c'est un lecteur de Lucrèce comme, avant tout comme poète. Mmh. Il lui arrive par exemple, parce que Lucrèce est un immense poète, mais il lui arrive très très souvent de citer des vers de Lucrèce dans lesquels Lucrèce fait parler des thèses adverses. Il faut faire attention aux citations que fait Lucrèce que fait Montaigne de Lucrèce. Je les ai étudiées de près. Il cite absolument pas du tout des vers qui pour nous seraient les plus emblématiques, etc., d'un épicurisme subversif. Montaigne, d'ailleurs, je vous renvoie à un texte très beau de Francis Goyet à la fin des Audaces de la Prudence, qui dit que Montaigne était bon catholique. Alors, on peut discuter sur la religion de Montaigne à l'infini, mais enfin, il faut faire attention quand on parle du Lucrèce de Montaigne.
Merci beaucoup, Pierre Vesperini, de nous avoir démonté ce mythe Lucrèce de vous. On peut lire justement à ce sujet Lucrèce, archéologie d'un classique européen. C'est paru chez Fayard et ça a été réédité cette année en Champflammarion. Et vous en avez parlé, le sujet a l'air passionnant, c'est Poète et lettré oublié de la Rome ancienne qui a été publié aux Belles Lettres. Et pour lire De la nature de Lucrèce, vous pouvez vous tourner vers les éditions GF dans la traduction de José Cani-Turpin, c'est celle qu'on a utilisée toute cette semaine. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Comment restaurer la confiance? Quand quelque chose de fondamental a été ébranlé chez un être humain ou entre les êtres humains, on parle toujours de le remettre en fonctionnement, de le réparer ou de le refonder. Mais il y a des domaines où cela va si loin qu'on emploie un verbe qui peut avoir deux usages extrêmes, le verbe restaurer. On parle de restaurer la confiance, c'est quelque chose d'impalpable, mais dont dépendent les relations, dont dépendent justement fondamentalement les relations entre les êtres humains. C'est quelque chose qui, une fois brisé, est extrêmement difficile à reconstruire. Restaurer la confiance, ça semble presque un défi dans la vie quotidienne, un défi dans les couples, un défi dans les amours. Quand on s'est trahi une fois, est-ce qu'on peut restaurer une confiance? Il semble que c'est irrattrapable. Il semble qu'il y a un principe absolu qui a été détruit. À l'autre bout du spectre de l'usage de ce mot, il y a le sens politique qui a été incarné en France par la période de la restauration. avec une majuscule, après la Révolution. C'est la restauration d'un ordre politique fondé sur une transcendance, l'ordre royal, fondé finalement, au bout du compte, sur un lien avec la religion et qui restaure une sorte de, justement, quelque chose de supérieur, quelque chose qui semble supérieur aux humains, alors que l'image du fondement nous place plutôt dans ce qui nous soutient par en dessous. Le fondement, c'est par dessous, et la transcendance, c'est par dessus. Restaurer ce qui nous dépasse, comment peut-on le faire si il faut recourir à un ordre religieux d'un côté, ou à un sentiment impalpable, à l'amour, à la confiance, en tant qu'elle est dépendante de nos sentiments, qui, une fois trahis, une fois violés, puisqu'il faut parler de violation, semble en effet irrattrapable. Cette notion de restauration nous amène donc vers l'importance de réparer ce qui nous soutient, ce qui conditionne nos vies, ce dont on parle en termes de fondation ou de fondement. Alors peut-être faut-il être plus modeste. Peut-être pour restaurer la confiance entre les êtres humains, faut-il justement d'abord passer par des institutions qu'il faut fonder et sans cesse refonder. Pour restaurer la confiance, peut-être ne faut-il pas la placer seulement de manière affective, dans un amour absolu qui est toujours menacé entre les humains par une ambivalence. Et heureusement que cette confiance folle est parfois respectée, c'est la confiance de l'amour parental, c'est la fiabilité, c'est la présence de l'autre qui, heureusement, est quand même là dans l'amour, contre la haine et contre la peur. Mais entre les humains, face au risque de la violation, face au risque aussi de la trahison, on ne peut la placer entièrement ni dans les sentiments, ni dans la croyance. Il faut, d'une certaine façon, pour restaurer la confiance, refonder des institutions fiables, des institutions qui reviennent constamment à leurs principes en étant conscientes de leur fragilité possible. C'est pourquoi le fondement ou la fondation ne sont jamais acquis une fois pour toutes, mais les refondations sont toujours possibles. Il y a déjà eu des écroulements. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui, dans le deuxième quart du XXIe siècle, que nous avons peur de l'effondrement. Il y a donc la possibilité de restaurer la confiance, non pas par des incantations magiques que viendront toujours ébranler les sceptiques de tous bords et sur tous les réseaux sociaux, mais par la confiance dans des institutions, dans un certain nombre de principes qui s'imposent aux uns et aux autres. C'est seulement par cette obligation institutionnelle qu'on restaurera la confiance mutuelle.
Merci beaucoup Frédéric Worms. On peut retrouver toutes vos chroniques sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment.
Et serrant ma blessure.
Et c'est ainsi que s'achève notre semaine consacrée à De la nature des choses, le poème de Lucrèce. Merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Anna Fulpin, Axel Dubois, Chaïma Gibois, Armance Bourquin et Nassim El-Kabli, à la réalisation aujourd'hui Riyad Kera, à la prise de son François Saint-Jour. Pour retrouver toutes ces émissions, rendez-vous sur le site et sur l'application Radio France.